Maintenant, je venais de m'y remettre. Je leur ai raconté comme on raconte une série. Ça se passe à Corinthe, en Grèce, vers l'an 50 après Jésus-Christ. Mais personne, bien sûr, ne se doute alors qu'il vit après Jésus-Christ. Au début, on voit arriver un prédicateur itinérant qui ouvre un modeste atelier de tisserand. Sans bouger de derrière son métier, celui qu'on appellera plus tard Saint Paul file sa toile et de proche en proche l'étend sur toute la ville. Chauve, barbu, terrassé par de brusques attaques d'une maladie mystérieuse, il raconte d'une voix basse et insinuante l'histoire d'un prophète crucifié 20 ans plus tôt en Judée. Il dit que ce prophète est revenu d'entre les morts et que ce retour d'entre les morts est le signe avant-coureur de quelque chose d'énorme. Une mutation de l'humanité, à la fois radicale et invisible. La contagion opère. Les adeptes de l'étrange croyance qui se répand autour de Paul dans les bas-fonds de Corinthe en viennent bientôt à se voir eux-mêmes comme des mutants, camouflés en amis, en voisins, indétectables. Les yeux de Fabrice brillent. Raconté comme ça, on dirait du Dick. Le romancier de science-fiction Philippe K. Dick a été une référence majeure pendant notre travail d'écriture. Je sens mon public captivé, je renchéris. Oui, on dirait du Dick. Et cette histoire des débuts du christianisme, c'est aussi la même chose que les revenants. Ce qu'on raconte dans Les Revenants, ce sont ces jours derniers qu'étaient persuadés de vivre les adeptes de Paul, où les morts se relèveront et où se consommera le jugement du monde. C'est la communauté de parias et d'élus qui se forme autour de cet événement sidérant, une résurrection. C'est l'histoire de quelque chose d'impossible et qui pourtant advient. Je m'excite, je me resserre verre sur verre, j'insiste pour resservir aussi mes hôtes. Et c'est alors que Patrick dit quelque chose d'au fond assez banal, mais qui me frappe, parce qu'on sent que ça lui est venu à l'esprit sans crier gare, qu'il n'y avait pas pensé, et que d'y penser l'étonne. Ce qu'il dit, c'est que c'est une chose étrange quand on y pense, que des gens normaux, intelligents, puissent croire à un truc aussi insensé que la religion chrétienne. Un truc exactement du même genre que la mythologie grecque ou les contes de fées. Dans les temps anciens, admettons, les gens étaient crédules, la science n'existait pas. Mais aujourd'hui, un type qui, aujourd'hui, croirait à des histoires de dieux qui se transforment en signes pour séduire des mortels, ou à des princesses qui embrassent des crapauds et quand elles les embrassent, ils deviennent des princes charmants, tout le monde dirait « il est fou ». Or, un tas de gens croient une histoire tout aussi délirante, et ces gens ne passent pas pour des fous. Même sans partager leurs croyances, on les prend au sérieux. Ils ont un rôle social, moins important que par le passé, mais respecté, et dans l'ensemble plutôt positif. Leurs lubies cohabitent avec des activités tout à fait sensées. Les présidents de la République rendent visite à leur chef avec déférence. C'est quand même bizarre, non ? C'est bizarre, oui. Et Nietzsche, dont je lis quelques pages chaque matin après avoir conduit Jeanne à l'école, exprime dans ces termes la même stupeur que Patrick Blossier. Par un matin de dimanche, quand nous entendons bourdonner les vieilles cloches, nous nous demandons « Mais est-ce possible ? Tout cela pour un juif crucifié il y a 2000 ans et qui disait être le fils de Dieu, encore qu'il n'y ait pas de preuve de cette affirmation. Un Dieu qui engendre avec une femme mortelle. Un sage qui recommande de ne plus travailler, de ne plus rendre la justice, mais de guetter les signes de la fin du monde imminente. Une justice qui accepte de prendre un innocent comme victime suppléante. Un maître qui ordonne à ses disciples de boire son sang. Des prières pour obtenir des miracles. Des péchés commis contre un Dieu, expiés par un Dieu. La peur d'un au-delà dont la mort est la porte. La figure de la croix pour symbole, à une époque qui ne sait plus rien de la fonction ni de l'ignominie de la croix. Quel frisson d'horreur nous vient de tout cela, comme un souffle exhalé par le sépulcre d'un passé sans fond. Qui peut croire que l'on croit encore une chose pareille ? On la croit pourtant. Beaucoup de gens la croient. Quand ils vont à l'église, ils récitent le credo, dont chaque phrase est une insulte au bon sens, et ils le récitent en français qu'ils sont censés comprendre. Mon père, qui m'emmenait à la messe le dimanche quand j'étais petit, regrettait qu'elle ne soit plus en latin, à la fois par passéisme et parce que, je me rappelle sa phrase, en latin, on ne se rendait pas compte que...